Dabouche qui est présent. Et autour de ça se greffe un certain nombre de groupuscules. Alors il y a un groupe qui s'appelle la Fraternité Nationale de Render Abrahamian, qui est un groupuscule, mais ce Render Abrahamian, que je connais pas personnellement, est un ancien proche de Pachinian. Il a été rédacteur en chef du journal Haïkogan Jamana, qu'a dirigé Pachinian et que dirige aujourd'hui l'épouse de Pachinian, Anna Gopian. L'Alliance nationale démocratique, qui est un autre groupuscule, celui-là plus proche des enragés du Sassoon, qui étaient ces militants issus du Karabakh qui avaient attaqué un commissariat en 2016 et dont plusieurs de membres sont actuellement en prison. Alors, ce qui est un peu surprenant, c'est que ces deux groupes que je viens de citer, la Fraternité Martiale et l'Alliance nationale démocratiques, sont des groupes qui ont une idéologie à dénoncer l'alliance russo-turc. Ils ont un discours quand même assez anti-russe et c'est un peu surprenant de les voir se réactiver là-dessus après tout ce qui s'est passé jusque-là, c'est-à-dire qu'il y a eu quand même la perte de la guerre, il y a eu la perte, le blocus du Karabakh, la perte, la fuite de la population du Karabakh, on les a pas entendus beaucoup protester à ce moment-là, et maintenant ils s'activent autour de cette question. Mais, d'une façon générale, je dois dire que je prétends pas du tout avoir une idée générale de l'opinion arménienne, qui est extrêmement passive, mais enfin, les retours que j'ai d'Arménie montrent que il y a une montée du mécontentement dans la population. Maintenant, le mécontentement, ça veut pas dire que les gens vont aller dans la rue, hein. En tout cas, pour le gouvernement arménien de Pachinian, cette mesure est pas bonne pour son image dans le pays, quoi. Voilà, en tout cas.
Comment vous pensez qu'on juge justement cette politique du gouvernement Pachinian de concession unilatérale qui l'accorde au nom de l'Arménie, sans vraiment consulter la population sur ce qu'il entend faire? On le sent habité d'une sorte de mission à vouloir faire la paix coûte que coûte, quoi qu'il en coûte, et que dans cette situation, il devance même parfois, on a l'impression, les demandes de l'Azerbaïdjan ou de la Turquie.
Je ne sais pas s'il les devance parce que je pense qu'il répond aux demandes de l'Azerbaïdjan. Le président Ilham Aliyev a fait une déclaration pour dire que c'est lui-même qui avait demandé à que la délimitation de la frontière entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan commence par ce territoire. Il a aussi renchéri depuis cette décision en annonçant d'autres demandes concernant l'ouverture d'un corridor dans le Sanguezour. Il a également réclamé un changement de constitution. Et ce qui est assez troublant dans cette affaire-là, c'est que je n'ai pas entendu de réponse de la diplomatie arménienne disant que les sujets n'étaient pas sur la table et que l'Azerbaïdjan rajoutait des nouvelles conditions. Apparemment, toutes ces questions sont sur la table, à la table des négociations aujourd'hui. Voilà. Je pense que...
Mais on n'a pas l'impression de négociation, c'est-à-dire qu'on a l'impression que l'Arménie doit céder, mais que l'Azerbaïdjan, elle, ne cède rien.
Oui, c'est un peu le sentiment que l'on a, oui. Enfin voilà, je pense que le gouvernement arménien tient à arracher absolument un accord le plus rapidement possible. Voilà, je pense que c'est plutôt qu'il faut voir ça. Je pense que les changements de gouvernance qui pourraient potentiellement s'opérer en Occident, aux États-Unis, avec les élections aux États-Unis, avec les élections en Europe, pousse le gouvernement arménien à faire le raisonnement suivant, qui consiste à dire qu'il ne peut plus tarder à signer un accord quelconque avec le gouvernement azerbaïdjanais, faute de quoi il se retrouvera sans accord et à la merci de n'importe quelle aventure, y compris d'une attaque azerbaïdjanaise.
Alors, vous me tendez la perche pour parler un peu bah, justement de l'environnement international. Ce qu'on remarque aussi là-dessus, c'est l'éloignement de plus en plus fort entre l'Arménie et la Russie, où normalement d'ailleurs dans cette région il y avait des gardes frontières russes qui étaient positionnés, mais il semblerait qu'on leur demande de quitter cette zone. En tous les cas, c'est une demande de Nicole Pachignan. Est-ce que l'Arménie est engagée dans un processus de rupture avec la Russie?
C'est un peu difficile à dire. Enfin, d'abord, concernant les gardes frontières qui étaient positionnés dans ces zones, ces gardes frontières étaient positionnés là-bas précisément depuis 3 ans suite à des incidents qui étaient survenus pour protéger donc précisément l'une des sections de frontières qui est concernée par l'accord. Alors, le fait qu'on retire les troupes russes et qu'on demande aux troupes russes de partir, bon, ben c'est, ça procède assez d'une logique, hein, c'est pas en soi particulièrement, voilà. Bon, ben, on observe depuis quelques mois, donc, effectivement, une montée des tensions entre l'Arménie et la Russie. L'Arménie accusant la Russie de ne pas avoir répondu à ses obligations, de ne pas avoir rempli ses obligations vis-à-vis de l'Arménie, d'une part lors de l'attaque de l'Azerbaïdjan contre l'Arménie qui avait eu lieu en septembre 2021, septembre 2022, pardon, puis aussi également dans le Karabakh, en n'empêchant pas, en protégeant pas la population arménienne lorsqu'elle était attaquée par l'Azerbaïdjan. Voilà, alors jusqu'où ça pourrait conduire, je ne sais trop rien. Ce que je remarque, c'est que l'accord qui a été signé entre que l'Arménie ne peut pas ne pas tenir compte du facteur russe dans cette affaire-là, juste au moment où l'Arménie a signé cet accord avec l'Azerbaïdjan concernant la cession ces territoires dans le Davouche, la Russie a annoncé le retrait de ses troupes d'interposition qui étaient encore stationnées à l'intérieur de Karabakh. Et là encore, elle vient encore de faire des déclarations pour proposer ses services dans la délimitation des frontières entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan. Donc, je doute que l'Arménie puisse faire sans la Russie, quoi. Voilà, je veux dire, dans cette situation-là, elle est bien obligée d'en tenir compte, puisque de toute façon, l'une des parties, qui est l'Azerbaïdjan, ne se prive pas de s'appuyer sur sa relation avec la Russie pour faire pression sur l'Arménie. Donc l'Arménie doit avoir une politique, en tout cas là-dessus.
Alors, avant de revenir sur la relation entre l'Azerbaïdjan et la Russie, cet accord pour le Tavouche a été salué par les ministres des Affaires étrangères du G7, par le ministre des Affaires étrangères des États-Unis, par la France, par l'Union européenne, par tout un certain nombre de pays qui ont salué cet accord. Mais justement, du côté russe, silence total. Il n'y a pas eu, à part le fait de dire qu'on prend acte de l'accord, mais il n'y a pas eu de réaction. On peut dire que l'Europe, les États-Unis sont à la baguette pour justement se tracer des frontières et promettre des aides à l'Arménie en contrepartie du fait qu'elle lâche des villages derrière.
L'accord qui a été signé mentionne comme base de négociation pour le tracé de la frontière, il fait référence au traité d'Alma-Ata de 1991, qui est le traité qui, à la fin de l'Union soviétique, a abouti à la dissolution de toute l'Union soviétique et qui reconnaît, par lequel les différentes républiques soviétiques, les 15 républiques soviétiques qui ont déclaré leur indépendance, se reconnaissaient mutuellement et reconnaissaient leur intégrité territoriale réciproquement. Le fait d'utiliser cet accord d'Alma-Ata comme une base de négociation est une proposition occidentale. Il a été proposé que dans le cadre des négociations de paix entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan, celle-ci se fonde sur cet accord d'Alma-Ata. Comme dans cette sur cet accord de concernant ces quatre villages du Davout, il a été fait référence à ça. C'est normal que cet accord ait été salué. Maintenant, le silence de la Russie s'explique tout simplement par le fait que elle aussi a pris en compte cette réalité, puisque l'Arménie, en signant cette, en acceptant de jurer, en signant un papier officiellement et non plus par des déclarations, en reconnaissant officiellement par sur le papier en réaffirmant ce traité comme principe de négociation, le traité d'Alma-Ata, l'Arménie, dans le même temps, reconnaît le territoire azerbaïdjanais, reconnaît un territoire azerbaïdjanais 86 000 km², qui intègre également le Karabakh. C'est-à-dire qu'en signant cet accord, l'Arménie reconnaît que le Karabakh de jurer appartient à l'Azerbaïdjan, voilà. Et ce faisant, on peut même imaginer que l'Arménie aussi, non seulement reconnaît que le territoire du Karabakh appartient à l'Azerbaïdjan, mais également affirme qu'elle abandonne toute velléité de pouvoir être intéressée au sort des Arméniens de cette région, même s'il n'y a plus d'Arméniens dans cette région, même dans le cadre d'un retour. Donc, je pense que les Russes ont parfaitement pris en compte cette nouvelle réalité. Il y a deux parties qui ont signé cet accord, c'est l'Arménie et l'Azerbaïdjan, parce que l'Arménie a signé ce papier, mais l'Azerbaïdjan aussi l'a signé. Comme l'Arménie abandonne visiblement toute velléité, toute revendication sur le Karabakh de quelque nature de soi, il était naturel que les Russes s'en aillent. Voilà. D'un côté, on salue, de l'autre côté, on prend acte. Voilà, c'est ça que je veux dire.
Alors, vous parliez dans cet accord signé, c'était de la reconnaissance sur la base d'Alma-Ata, c'est ce qu'on a appelé l'accord de Prague. Il faut quand même reconnaître que si l'Arménie, elle, a reconnu, en tous les cas, l'a déclaré officiellement, jusqu'à aujourd'hui, l'Azerbaïdjan n'a jamais fait de déclaration officielle, ni Aliyev lui-même, reconnaissant les 29 800 km² de l'Arménie.
Oui, mais on le voit bien que ces négociations sont...
D'ailleurs, il dit qu'il n'est pas tenu par l'accord de Prague, mais il veut maintenant l'application de l'accord du 9 novembre.
Écoutez, l'Azerbaïdjan, de toute façon, là, vient d'envoyer encore ses nouvelles propositions à l'Arménie aujourd'hui même, concernant cet accord. Bon, ce qui semble très clair, c'est que l'accord de paix général entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan est une question complexe, dont la question des frontières n'est qu'un des aspects, et que le gouvernement arménien a voulu commencer ce processus en commençant par ce qu'elle considérait comme le plus facile, c'est-à-dire la rétrocession de ses territoires à l'Azerbaïdjan. Voilà. Maintenant, l'avenir de ce traité de paix, c'est extrêmement difficile de dire, sachant que dès le lendemain de l'annonce de cet accord sur la rétrocession de ces quatre villages au Davout, Aliyev a, au cours d'une conférence dédiée en plus à la COP29 qui sera organisée à Bakou, a fait état d'autres de ses revendications, sans que la partie arménienne ne réagisse en disant que non, c'est pas dans l'accord. Voilà. Donc, il réclame non seulement le corridor dans le Sangezoul, mais il réclame aussi des changements de constitution, qu'on enlève le mont Ararat dans les armoiries de la République d'Arménie, qu'on retire la référence au Karabakh dans la constitution arménienne. Voilà.
Donc, l'armée arménienne également, si j'ai bien compris.
Moi, j'ai pas lu ça, mais c'est peut-être tout à fait possible que toutes ces conditions avancent. Voilà.
Et d'ailleurs, donc, il est rejoint par la Turquie là-dessus, qui elle-même demande la fin du combat pour la reconnaissance internationale du génocide des Arméniens, l'Ararat, vous l'avez évoqué, le Karabakh. Donc, il est rejoint par la Turquie et Erdogan sur cette question.
Oui, voilà. Alors bon, le gouvernement arménien a tenté de présenter le fait d'avoir obtenu la signature de cet accord par lequel, soi-disant, comme si l'Arménie s'y reconnaît le trait, ce fameux, enfin, signe un accord sur la base des principes de ce traité d'Alma-Ata qui reconnaît l'intégrité territoriale de l'Azerbaïdjan. Dans ce cas, comme l'Azerbaïdjan a signé, elle reconnaîtrait aussi le territoire de l'Arménie. Et donc, le gouvernement arménien a tenté de présenter ça comme une victoire, un gain en termes de sécurité. Bon, mais le sentiment quand même que l'on a, c'est que sa situation est très désespérée. Voilà, que la situation est très très grave, quoi. Voilà. Un peu le sentiment que j'ai maintenant, je peux me tromper.
Alors revenons,
Je souhaite me tromper.
on peut espérer se tromper, mais malheureusement, le gouvernement arménien nous a habitués à d'autres choses. Et l'Azerbaïdjan nous a habitués à être toujours plus exigeants en matière de territoire.
Parce qu'il faut quand même souligner quand même quelque chose, c'est que non seulement l'Arménie, les Arméniens ont quitté le Karabakh, mais les troupes azerbaïdjanaises occupent des sections de la frontière
Voilà, on
arménienne.
n'a pas mis ça en, on n'a pas mis ça en balance.
Le gouvernement arménien a même officiellement sur ses sites web où il diffusait des informations en faisant état que 131 villages arméniens étaient
131 et 131 km².
131 villages arméniens avaient perdu des territoires qui étaient occupés à l'Azerbaïdjan. Alors faire passer la pilule auprès de l'opinion publique que dans ces conditions-là, l'Arménie va donner unilatéralement des territoires à l'Azerbaïdjan, évidemment, c'est quelque chose, un exercice extrêmement difficile et qui ne peut être qu'effectivement que gêné aux entourneurs, au moins, tout le moins qu'on puisse dire.
Alors, je vous faisais l'allusion avec l'Artsakh et ce traité d'Alma-Ata. Vous avez entendu cette semaine, vous avez vu Ardak Beglarian qui était en France. Sur la question de l'Artsakh, on semblerait même qu'aujourd'hui, il y a de la tension entre les anciennes autorités de l'Artsakh et l'Arménie et qu'il y ait la question du droit au retour, mais, ou même la question de l'expression des Arméniens d'Artsakh en Arménie, gêne également le gouvernement arménien.
Oui, ben écoutez, le gouvernement arménien, le gouvernement arménien ne veut absolument pas gêner des négociations avec l'Azerbaïdjan pour la sécurité de l'Arménie, pour la question du Karabakh. La question du Karabakh, d'abord Pachinian a dit que de toute façon, il l'a dit officiellement dans une interview donnée à la presse britannique, que l'Arménie n'avait pas les moyens. Là-dessus, sur le plan
L'Arménie n'avait pas les
militaire,
moyens. Comment ça?
sur le plan militaire, n'avait pas les moyens, voilà. Et puis que cette question du Karabakh, je pense que pour l'instant, en tout cas aujourd'hui, l'Arménie, tant qu'elle n'aura pas garanti sa sécurité sur ses frontières, ne se préparera certainement pas à soutenir des initiatives visant à reconnaître et à défendre les droits des Arméniens du Haut-Karabakh, autrement peut-être que sur le plan juridique, en portant l'affaire devant différentes instances internationales, comme la Cour internationale de justice, où la question a été portée par l'Arménie, pour quand même le rappeler. Mais la question de savoir, est-ce que l'Arménie va emmener cette affaire auprès d'autres juridictions, comme la Cour pénale internationale, auquel elle a adhéré tout à fait récemment, c'est une question ouverte et pour l'instant, on n'a pas la réponse. Maintenant, cette question des droits de retour des Arméniens du Karabakh a été, finalement, cette question du Karabakh est liée intimement, visiblement, avec cette affaire du Dazbouj, puisque, comme je vous l'ai dit, les troupes russes ont pris acte et se retirent du Karabakh, mais dans le même temps, tout en saluant, vous avez dit tout à l'heure, que les ministres des Affaires étrangères du G7 avaient salué l'accord, mais dans le même discours, elles ont également réaffirmé la nécessité pour l'Azerbaïdjan d'autoriser le rapatriement des réfugiés. Sans dire arménien du Haut-Karabakh, mais des réfugiés.
C'est quel statut? Est-ce qu'il faut qu'ils soient azerbaïdjanais ou pas? Est-ce qu'ils sont protégés ou pas? Est-ce qu'en
Je ne
plus,
sais
c'est
pas, je ne sais pas, mais il semble que on peut penser que l'Arménie officiellement ou pas, aient décidé de se reposer sur cette question, sur la bonne volonté de la communauté internationale. Ou sur d'autres terrains, on a vu ce que ça a pu donner dans le monde. Il suffit de regarder les actualités tous les jours sur voilà, et les illusions qu'on peut faire là-dessus. Mais enfin, ce que je veux dire, c'est que cette question n'a pas forcément totalement disparu de toutes les discussions. Apparemment, si le ministre des Affaires étrangères du G7 mentionne ce point, c'est qu'il y a, à mon avis, il y a une raison. Voilà. Ce qui explique d'ailleurs pour lequel, sans doute, la mauvaise humeur des Russes et des Azerbaïdjanais, parce que je pense qu'ils ont accepté que les Azerbaïdjanais ont accepté de citer cet accord, en étant sûrs que l'Arménie ne présenterait pas de revendications vis-à-vis du Karabakh. Voilà. Le voir ressortir, cette question au niveau du G7, peut-être que je ne sais pas. Enfin, voilà, on peut tout imaginer.
Vous êtes l'auteur d'un livre qui s'appelle Chronique de la Troisième République. Ma dernière question va quand même porter là-dessus. Comment vous jugez cette période dans laquelle nous vivons en termes de défense de cette indépendance chèrement acquise est-ce qu'on est sur le reculoir, mais est-ce qu'on est sur un reculoir forcé ou sur on est sur une stratégie voulu par les dirigeants actuels de l'Arménie.
Écoutez, le monde traverse une période de chaos. Voilà, je vous parlais des actualités. Il suffit de voir à quel niveau en est arrivé le droit humanitaire international. On peut se demander même si ça existe, cette notion-là, puisqu'ils sont violés tous les jours. Il y a une guerre atroce qui se produit en Ukraine, à nos frontières. On voit ce qui se passe en Palestine. Que vous dire? Quel est l'avenir? Est-ce que les dirigeants arméniens sont responsables entièrement de cette situation? Non. On a vécu une période, la guerre du Karabakh est intervenue à un moment du désengagement américain au cours de la présidence de Donald Trump. Voilà. Peut-être que cette question ne serait pas intervenue. Enfin, il y a une conjonction de facteurs qui font que l'Arménie traverse des heures extrêmement sombres. Et voilà, moi, seul équivalent que je vois pour moi dans l'histoire, en dehors de l'histoire des Arméniens, enfin, c'est quelque chose que l'on vit, c'est pour la région l'équivalent de ce qui serait passé pendant la Seconde Guerre mondiale ou la Première Guerre mondiale. Voilà, donc l'État arménien est en train de redéfinir son espace. Voilà, on croyait que les frontières qui étaient celles de l'Arménie, qui étaient héritées de l'Union soviétique, plus le Karabakh, étaient des frontières indéfectibles, même que la carte ethnique des Arméniens et leur répartition modulo les migrations économiques leur espace était désormais constitué. Apparemment, cet espace n'est pas délimité. Il est remis en question. On a vraiment le sentiment sur le temps long que tout s'est arrêté en 1920 et qu'en 1920, on continue l'histoire au moment de la chute de la première république indépendante et que l'histoire a repris à partir de là. Alors, où est-ce que ça va se terminer? Je ne sais pas. Il y a un retour de l'impérialisme turc, voilà, enfin, l'Empire ottoman, un retour de l'Empire ottoman plus qu'une Turquie, voilà. Donc, quand les grands empires s'affrontent, parce qu'on assiste à ça, nous, on est au milieu et on doit essayer de survivre. Alors, est-ce que le gouvernement arménien est responsable, il a sa part de responsabilité, sans doute, mais il n'y a pas que lui. Enfin voilà, donc c'est pour l'instant c'est difficile d'y voir clair. Je pense qu'il est important surtout d'essayer de se sortir de cette situation et voilà. Maintenant, je veux dire que l'on critique.
Est-ce que, sans vous demander ce que vous feriez, mais quelle piste vous pouvez envisager pour sortir de cette situation?
Écoutez, les pistes de cette situation, vous savez, ça fait quelque temps que je suis l'Arménie et que je suis le terrain, que particulièrement depuis la guerre, j'y suis allé je ne sais combien de fois. Sur le terrain, ce qui remonte, c'est que l'information est cachée, volontairement ou pas volontairement. Donc on ne sait pas ce qui se passe en fait, on ne sait pas qu'est-ce qui se passe derrière les paravents. Beaucoup de choses ne sont pas dites, beaucoup de choses se passent. Qu'est-ce que j'aurais fait? Je ne sais pas. J'ai pas les données et toutes les cartes en main. Mais d'une façon générale, je sais aussi que ce n'est pas ici que nous qui avons quelconque influence sur le cours des événements qui se déroulent en Arménie, que ça se passe, que c'est aux Arméniens d'Arménie de prendre en main leur destin. Alors, s'ils ont pas, ils semblent pas vouloir pour l'instant. Vouloir pour l'instant, enfin, il n'y a pas de révolution pour l'instant en Arménie, même s'il y a des mouvements là en ce moment. Est-ce qu'ils ont choisi de faire confiance à leur gouvernement qu'ils ont élu? Bon, ben, nous verrons où ça mènera. Qu'est-ce que l'on peut faire? Je n'ai pas les cartes en main pour vous dire qu'est-ce que l'on pourrait faire. Voilà.
Bon, il y a aussi la possibilité justement de positionner ça, l'armée sur ses frontières et de ne rien céder, de négocier mais de ne rien céder.
Oui, ben il y a toutes les options qui sont sur la table, mais bon,
C'est pas la même affaire.
c'est pas la direction qu'a choisi le gouvernement arménien, apparemment.
Ah, ça c'est clair. Merci beaucoup, Valé Termination, pour cette interview et puis on vous retrouvera prochainement dans les pages de France Arménie, puis sans doute avec un reportage dans ces zones très prochainement. Merci à vous.
Merci.
Nous avons maintenant en ligne Anaïda Gopian, la présidente du CDCA, avec qui nous allons revenir sur ces commémorations du 24 avril et plus particulièrement sur les déclarations politiques d'Erdogan et de Nicole Pachignan. Anaïda Gopian, bonjour.
Bonjour.
Alors, on vous sait un petit peu souffrante, on ne va pas vous garder très longtemps. D'abord, quel est votre sentiment sur quel bilan, quelle perspective vous tirez de ce 24 avril qui vient de se couler, tant en France qu'en Arménie ou dans le monde?
Écoutez, je vais reprendre une formulation de Moulad Papazian parce qu'elle me paraissait être très juste. Il disait que c'était le pire 24 avril depuis le 24 avril 1915 et je crois que c'est très vrai. Entre les prisonniers otages en Azerbaïdjan, entre tout ce qu'on est en train de vivre, le Tavouche, les déclarations de Nicole Pachignan, les déclarations d'Erdogan, c'est un 24 avril très difficile et je crois que les Arméniens doivent être plus que jamais au rendez-vous de ce genre d'événement. Ils l'ont été, il faut continuer.
On a senti quand même une forte mobilisation de la classe politique française pour ce 24 avril, toutes tendances confondues, et on a même eu des discours particulièrement forts, ou en tous les cas, qui ont demandé la fin de l'accord gazier, qui ont demandé à ce que la France n'aille pas à la COP29. Est-ce que ça vous semble satisfaisant? En tous les cas, il semble que la classe politique se soit mobilisée pour ce 24 avril.
Oui, elle s'est mobilisée. Maintenant, il faudra voir les actes le moment venu. Évidemment, la COP29, c'est impossible. C'est-à-dire que la participation de la France, qui représente les valeurs démocratiques dans le monde, dans un pays où en fait on bafoue nuit et jour tous les droits internationaux, où on tient encore des otages, 23 otages dans le pays, c'est en contradiction directe avec tous les engagements de la France. Donc ce serait incompréhensible que la France se rende en Azerbaïdjan pour la COP29. En fait, ce serait jouer le jeu de l'Azerbaïdjan qui veut blanchir sa réputation. Donc, c'est juste incompréhensible en réalité.
Anaïda Gopian, juste un petit commentaire sur les déclarations d'Erdogan, d'abord, qui a donné un satisfecit à l'Arménie et qui, pour autant, a exigé un changement de la constitution arménienne et la fin de toute reconnaissance ou réparation du génocide des Arméniens.
Écoutez, Erdogan est dans sa droite ligne dans la politique négationniste de la Turquie. La carte est dans le camp de l'Arménie en réalité. C'est à l'Arménie de voir si elle veut suivre les menaces d'Erdogan, suivre à la lettre le chantage d'Erdogan. Ce serait quand même hallucinant et en même temps peu surprenant de la part de Nicole Pachignan en réalité. Mais je veux dire, si on cède sur ça aussi, alors qu'est-ce qu'il nous reste à la fin, quoi. Très difficile.
C'est pas nouveau, mais justement, ces déclarations viennent après celles d'Antrani Kocharyan, qui demandait la publication de la liste des noms, des prénoms, des lieux, etc. On sent qu'il y a une forme d'emprise de la Turquie et que l'Arménie est prête à lâcher là aussi. On ne sait pas trop pourquoi. Elle met en avant le fait qu'elle veut défendre l'intégrité de l'Arménie et résoudre tous les problèmes avec ses voisins, mais en fait les résoudre en sacrifiant tout ce qui fait d'elle une Arménie, quoi.
Oui, oui, et surtout, moi, je veux voir l'efficacité de cette stratégie, quoi. Ça fait 4 ans maintenant. On a vu que cette stratégie n'a jamais payé. Donner plus de terres à un pays qui veut te voir disparaître de la carte, je ne sais pas trop en quoi cette stratégie elle est payante. Pour l'instant, elle a, au contraire, au lieu de faire ses preuves, elle a montré en fait qu'on va droit dans un mur. Donc bon, évidemment, ces propos sont très dangereux. On les a condamnés par ailleurs au CDCA. Ils vont à l'encontre de dizaines d'années de travail de tous les Arméniens dans le monde entier qui ont lutté pour pour la question soit reconnue. Donc c'est très très dangereux. On suit ça de près. Et on espère surtout que ça ne va pas aboutir.
Mais écoutez, Anaïna Gopian, on ne va pas vous embêter plus. Merci encore pour cette courte interview. Soignez-vous bien. Et puis, on vous retrouvera plus longuement sur nos antennes à une autre date. Merci avec encore.
Plaisir. Merci beaucoup.
Voilà. Voilà ce que l'on pouvait dire ce matin sur ces sujets-là. Je remercie Ardak Beglarian, Vahe Termination, Anaïda Gopian d'avoir pu participer à cette émission malgré le fait qu'elle était souffrante. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau Carte sur Table. Vous pouvez réécouter cette émission en podcast sur notre site internet radio-ipfm.com ou sur YouTube ou sur notre page Facebook. Et puis vous pouvez la réécouter également demain matin à 9h15 dimanche pour voir encore une fois cette émission. À la semaine prochaine pour un nouveau Carte sur Table.
Yerku votke Չէ իր զավակները պայքարի Հողին գանչին գարցականքեն մեր ժողովրդին ազնվակույն զավակները Եվ ուքան անոն, ուքան հարյուրներով, ուքան հազարներով Եվ գկալեն վար ճամպեքով արևների Հայրենիք իմ անմահանուն, զավակներդ են անմահանուն Զավակներդ հողի համար հող են դառնում։ Մեր հրաշք դղոց արինով գնկված հաղթանակները Բիդիկրավեն հայոց նորօրյա պատմության շքեղաքույն էջերը։ Բիդիշարունակվի հայրենիքի ազատագրության երդումով զենք կրգած պետային մղած գյանքի եւ մահվան պայքարը, մինչեւ որ ազատագրվին բռնակրված բոլոր հողերը, մինչեւ որ վերջին տշնամի զինվորը թուրս շբրդվի հերոսական Արցախի հողերեն։ Գգանչե հողը, գգանչե զավակները պայքարի։
organiser des compètes de foot.
J'aimerais avoir ma chaîne YouTube pour parler de jeux vidéo.
Après mon bac, je voudrais partir explorer le monde avec une caméra.
Et si je devenais assistant parlementaire ?
Aujourd'hui, j'ai créé mon agence de publicité.
Chez Mediaschool, on vous offre le choix de changer d'avis. Avec plus de 31 écoles spécialisées pour se former au métier de la communication, du journalisme, du digital, du tourisme, du luxe et du sport. Et vous, laquelle choisiriez-vous ? Rendez-vous sur le site c'estmoiquichoisis.com.
Amasca in Paris présente America de Grigor Belodian. Lundi 13 mai à 20h, présentation du livre par Christian Batikian en présence de l'auteur. À la Maison de la Culture Arménienne de Paris, 17 rue Bleue, Paris 9e, salle Desmirian, entrée libre.
IPFM à votre service pour accompagner la promotion de votre entreprise, de votre commerce ou les initiatives de votre association. IPFM se tient à votre disposition. Diffusée sur Paris, Marseille et Nice, notre antenne vous permettra d'atteindre un large public auquel il convient d'ajouter les internautes qui nous suivent en direct partout en France, mais également à l'étranger via notre site internet. Prenez contact avec nos services qui vous réserveront le meilleur accueil et qui vous proposeront la formule la mieux adaptée à vos projets et à votre budget. Appelez le 01 43 53 19 90, 01 43 53 19 90 ou laissez-nous un message sur hyperadio@wanadoo.fr et nous ne manquerons pas de vous recontacter.
La partie. Dans une ambiance méditerranéenne et chaleureuse, retrouvons-nous à la Maison de la Culture Arménienne de Sevran-Livry autour d'une païla. La Croix Bleue des Arméniens de France, section Dioui-Missakian de Sevran-Livry, vous invite dimanche 5 mai à partir de 12h30 pour sa traditionnelle païla suivie d'une tombola. Pour déguster une succulente païla, ça ne vous coûtera que 30 euros et 10 euros pour vos enfants de moins de 10 ans. Tous les bénéfices iront aux œuvres caritatives de la Croix Bleue. Pour réserver, appelez avant le 29 avril Madeleine au 01 43 10 04 96. 01 43 10 04 96. Rendez-vous à la Maison de la Culture Arménienne, 17 rue Charles Péguy, 93 190 Livry-Gargan, le 5 mai, pour une païla partie. La Croix Bleue des Arméniens de France, Jorwultin Head, Jorwultin Hamar.